ريبورتر إكسبرس.
مش نشيو لفرنسا بما أنه الأحداث تتتالى وتتوالى بشكل سريع جدا من 16 أكتوبر لحد اليوم برشا حاجات صاروا باش نحكيو عليهم بأكثر تفاصيل مع ضيفنا السيد إيمانويل دوبي بريزيدان لانسيتو بروسبكتيف و سيكوريتي أون أوروب. بونجور مسيو دوبي.
Bonjour
et bienvenue parmi nous. Donc, comme je l'ai mentionné au tout début, les événements se sont succédés d'une manière vraiment très très rapide. Violence, terrorisme, les dernières 24 heures étaient vraiment très très difficiles mais compliquées pour la France. Comment vous interprétez les faits ?
Bah écoutez, déjà, la situation est encore sous tension, hein. L'état d'urgence... attentat a été mis en place, il est concomitant de l'état d'urgence sanitaire, ce qui complexifie évidemment son application. Le président Emmanuel Macron a appelé à un renforcement de la présence militaire à travers le doublement, le plus que le doublement du reste de l'opération Vigipirate, qui va passer de 3 000 à 7 000 hommes. Et évidemment, on peut s'interroger avec les 24 heures d'une attaque concomitante avec un certain nombre d'autres événements qui se sont déroulés durant cette journée. Le massacre, qui s'est déroulé devant la basilique Notre-Dame de Nice, a eu son corollaire avec deux tentatives avérées d'ores et déjà. Du tentative d'attentat donc à Avignon où des policiers ont abattu quelqu'un qui s'apprêtait donc en tout cas se montrer très agressif à l'encontre des forces de sécurité, et on sait qu'il y a eu un attentat qui a été deux attentats qui ont été déjoués, un à Sartrouville et un attentat qui aurait pu se produire devant le consulat de France à Djeddah. Donc d'une certaine façon on a l'impression mais certains responsables politiques d'ailleurs ont osé le dire que la France était de nouveau à l'aune d'une nouvelle attaque. Alors il est pour dire si c'est vrai. En tout cas, ce qui est une réalité, c'est que la menace terroriste, comme l'a confirmé Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, vit et se confirme être une cible tout aussi privilégiée que les précédentes semaines. Symboliquement, la décapitation du professeur Samuel Paty était le centième acte de terrorisme, avec près de 70 attentats qui ont été commis sur le territoire national depuis 1979. Et bien sûr, il faut aussi le rappeler et s'en réjouir, près d'une cinquantaine d'attentats qui ont été déjoués depuis que la menace terroriste s'est faite très précise en France. Depuis d'ailleurs l'attaque de Mohamed Merah à Toulouse, près de 300 personnes ont perdu la vie en France suite à des attaques terroristes.
Qu'est-ce qui a fait que les choses atteignent ou ont pu atteindre ce niveau d'agressivité et de violence en France ?
Alors deux facteurs qui sont encore une fois complémentaires et qui confortent l'idée selon laquelle la France a une particularité, une singularité dans l'Union européenne. Premièrement, la France est engagée plus que ses partenaires européens dans un certain nombre d'opérations de lutte antiterroriste et de contre-terrorisme. C'est vrai avec l'opération Chamal en Syrie et en Irak depuis 2015, en Irak depuis 2016 en Syrie, mais c'est également vrai, dans la bande sahélo-sahélienne. Donc effectivement, il y a une sorte de facilité à dire que la France, qui n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit, mais bien pour stabiliser des régions qui sont mises en péril par la menace terroriste, en tout cas, est davantage engagée militairement que certains de ses partenaires européens. Et puis évidemment, il y a le double contexte tout à fait particulier d'une agressivité de plus en plus forte entre la France et un certain nombre de... En fait, l'appel au boycott des produits français suite au discours qu'a prononcé le président Emmanuel Macron au Mureaux le 2 octobre dernier, où il n'était pas du tout question de fustiger qui que ce soit, et encore moins l'islam ou les musulmans de France, mais bien de rappeler que les règles républicaines devaient s'appliquer à tous et que bien évidemment la communauté musulmane, dans son immense majorité, y participe. Mais il y a néanmoins eu un appel au boycott d'un certain nombre d'organisations, et ce qui nous amène à dire que nous sommes dans une tension supplémentaire avec une joute verbale, j'ose l'appeler ainsi, entre le président Recep Tayyip Erdogan et le président Emmanuel Macron, qui se sont accusés mutuellement de mots doux, si j'ose dire, et je pèse mes mots, et qui n'ont évidemment pas facilité la situation, ou en tout cas qui l'ont sensiblement tendue durant ces derniers jours.
Alors, en parlant du discours d'Emmanuel Macron, justement, plusieurs observateurs, ils ont considéré que le discours d'Emmanuel Macron n'était pas le discours que les Français attendaient. C'était pas le discours unificateur, rassembleur. Quand il a parlé des caricatures, des dessins, il a dit que nous allons continuer, nous n'allons pas arrêter de faire des caricatures et des dessins. On a vu aussi les caricatures sur les façades des immeubles d'institutions publique française. Plusieurs ont considéré que c'était une sorte de provocation pour la communauté musulmane. Comment vous voyez cette optique?
Le plusieurs est à définir. Mm-hmm. Parle-t-on d'une majorité ou parle-t-on d'une ultra-minorité?
Alors pour préciser, on parle pratiquement de la majorité des pays musulmans, pour commencer, parce que la majorité, ils ont publié des communiqués par rapport à ça.
Je ne suis pas tout à fait certain de cela. Je ne suis pas tout à fait certain que les prises de position au Maroc sont les positions officielles du roi du Maroc ou du Premier ministre. Je ne suis pas non plus certain que les oulémas ou les imams qataris aient parlé pour l'ensemble de la population qatarie. Je ne suis pas du tout certain que les discours très véhémineux du président Erdogan représentent la totalité du point de vue de la population turque. Donc je suis beaucoup plus modéré en disant la majorité de pays musulmans. Non, des organisations, des structures dans les pays musulmans ont effectivement utilisé à des fins géopolitiques une sorte de tension permanente entre la France et un certain nombre de responsables politiques de ces pays.
Alors je vais juste essayer
Je termine ma phrase.
Oh oui.
Je termine ma
allez-y,
phrase.
Allez-y.
Par contre, le discours très apaisant de Khaled Bencher, le président de la Fondation de l'Islam de France, appelant à ce que la communauté musulmane fasse corps avec la communauté nationale. D'ailleurs, il n'y a pas de césure entre les musulmans de France et l'ensemble de la population. Les musulmans sont des citoyens français. Et puis, bien sûr, le texte tout aussi important et la prise de parole tout aussi importante de Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman. Donc je ne suis pas certain qu'il faille, attention, il n'y a pas les musulmans d'un côté et le discours d'Emmanuel Macron, il y a un discours qui a été prononcé dans une forme de sidération qui a été, je crois, qui a été particulièrement exprimée par la société française dans tout son ensemble, quelles que soient ses religions, face à un crime odieux, la décapitation d'un homme qui n'avait pas vocation à faire du prosélytisme contre qui que ce soit, mais bien d'exprimer ce que doivent être la fonction régalienne de l'autorité éducative, c'est-à-dire appeler à la vigilance citoyenne, appeler à la conscience, à l'éveil des consciences. Mmh. Et je crois que le droit d'expression, quel qu'il soit, et c'est là où je réponds directement à votre question, la liberté de dire, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté aussi de remettre en cause un certain nombre de dogmes est une réalité qui appartient au système politique français depuis la Révolution française. Donc je ne vois pas pourquoi il devrait être remis en cause. Mmh. Et encore une fois, je n'appelle pas au droit au blasphème. Je ne justifie en rien la division des caricatures, mais c'était dans ce sens-là que le président Macron a voulu faire ce discours, qui était un discours d'apaisement et non pas un discours de fracture.
Alors justement, j'ai posé la question autrement ou différemment, si vous voulez. N'aurait-il pas pu, je parle d'Emmanuel Macron, le président bien sûr de la République française, n'aurait-il pas pu être un peu moins frontal, être un peu plus unificateur, s'adresser d'une manière où il ne provoque pas la communauté musulmane sans parler ou insister sur les caricatures ou sur la republication des caricatures encore une fois.
Encore une fois, c'est une perception que vous avez. C'est un condensé.
Ah non, c'est pas ma perception à moi. Hein,
je ne crois pas. Moi,
c'est un constat.
J'ai lu le discours, j'ai assisté et j'ai entendu l'émission du président. Je ne retiens pas du tout ça. Je retiens au contraire le principe d'une volonté d'unification de l'ensemble des citoyens français. Je retiens la nécessité de réguler le culte musulman pour que tous les musulmans de France puissent avoir un égal accès à leur religion et de favoriser dans le principe républicain la manière d'enseigner et de développer l'enseignement de la langue arabe, la manière aussi de réguler les pèlerinages, qui est aussi une façon très républicaine de permettre à tous les citoyens français de confession musulmane d'accomplir leur religion et de s'inscrire dans leur religion. Je ne crois pas du tout que le président Emmanuel Macron a fait un discours pour segmenter la société française.
Alors,
d'autant moins que j'ai le sentiment que ce discours a été plutôt apprécié par les représentants du culte musulman en France.
Alors, je vais donner la parole à mes collègues, mais juste une petite remarque avant, par rapport au discours d'Emmanuel Macron, il y a eu un petit changement entre le dernier discours, ou le discours qui a eu lieu juste après la décapitation du professeur, et le discours qui a eu lieu à Nice hier, quand il a parlé d'unification ou d'être unis. Donc, et là, on remarque un petit peu le changement de terme utilisé, Monsieur Dupuis.
Je vous laisse cette interprétation, mais je crois au contraire qu'il y a une grande filiation entre le discours des Mureaux, l'hommage national dans la cour d'honneur de la Sorbonne au président, que le président a fait à l'encontre, à l'invitation évidemment du corps professoral, et bien évidemment le discours, mais qui n'en était pas un, c'était une réaction à un attentat, là aussi sidérant, car il s'en prenait là, pour le coup, il faut appeler les choses clairement, à une partie de la société française qui est de tradition chrétienne.
Juste rapidement, deux petites remarques. Tout d'abord, vous avez parlé des institutions qui représentent les musulmans ou la communauté musulmane en France. On sait tout d'abord que leur communiqué ne représente pas la majorité de la communauté musulmane en France. Ça, c'est vrai parce qu'il n'y a pas l'idée ou la centralisation de l'idée en islam, le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir centralisé en islam. Donc, ils ne représentent en aucun cas la majorité de la communauté musulmane, je pense.
Vous ne pouvez pas réduire non plus. Et je vous renvoie la balle, vous ne pouvez pas réduire la voix de la communauté musulmane à quelques prises de position émanant d'un certain nombre d'organisations.
C'est juste par rapport
consensuel que l'ensemble des structures que j'ai citées. J'ai dit que pour l'instant, comme il n'y a pas, et c'est propre au sunnisme, de représentation institutionnalisée des cultes musulmans, il faut bien s'appuyer sur celle qui existe.
On peut confirmer que le pouvoir il n'est pas centralisé en islam, donc les prises de position de la communauté musulmane, ça ne représente pas, ça ne reflète pas les remarques des institutions. Mm-hmm. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je voudrais savoir s'il y a une sorte de mutation dans le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas dans la bataille avec l'extrême droite en France, parce que Rim elle a déjà indiqué il y a une mutation dans le discours d'Emmanuel Macron, donc il y a une sorte de changement des idées. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est le changement à cause de la bataille avec l'extrême droite en France ?
Non, je crois que le discours d'Emmanuel Macron, soyons clairs, répond à deux attentats terroristes qui sont innommables, indicibles et indéfendables. Point barre. Je ne crois pas qu'il faille chercher une évolution électoraliste. Sans doute que le président a une stratégie politique, mais qui ne se résume pas, en tout cas, si vous me demandez d'analyser scrupuleusement la teneur du discours de Miro, la teneur du discours qu'il a prononcé en Sorbonne, je n'y vois absolument pas la main de l'extrême droite. D'ailleurs, l'extrême droite a été très...
Mais même au niveau de la sémantique, quand on parle d'islamisme, le séparatisme islamique, ce sont des mots qui ils s'approprient en quelque sorte le discours de l'extrême droite en France.
Le fascisme, on a entendu le fascisme islamiste hier aussi.
Attendez, la parole de Christian Estrosi appartient à Christian Estrosi. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas faire dire tout à tout le monde. Christian Estrosi a une façon de concevoir le problème qui appartient à Christian Estrosi. Là, vous me parlez d'Emmanuel Macron. Macron n'a pas parlé d'un islamisme fasciste, c'est Christian Estrosi. Alors que Christian Estrosi ait des positions radicales, ça, encore une fois, c'est vous, en tant que journaliste, qui êtes là pour l'analyser. Moi, je vous parle. Vous me parlez du discours du président.
Le discours d'Emmanuel Macron, justement. On parle du séparatisme islamique.
Je vous réponds que ce discours répondait à un acte de sidération avec cet attentat contre un professeur, et il avait comme nécessité d'essayer de rassembler les Français pour évidemment essayer de trouver collectivement une réponse à ce qui semble être une radicalisation islamiste qui, encore une fois, a frappé 15 jours après, la preuve en est, il y a quelques heures, à Nice et avec les tentatives que je mentionnais à Avignon et à Jeddah.
Scandre.
Monsieur Dupuis, bonjour.
Bonjour.
D'abord, premièrement, je condamne, bien entendu, de la manière la plus ferme les deux attentats lâches et ignobles qui se sont passés. Je suis enseignant, donc j'ai été très touché par l'assassinat de Samuel Paty. Deuxièmement, si vous avez un peu le temps, je vous invite à lire un papier que, modestement, j'ai sorti dans Mediapart qui s'appelle « Contre la haine » en sélection de blogs il peut être utile à beaucoup de réflexions, surtout en ces moments-là. Troisièmement, moi j'ai une question très directe. Vous ne pensez pas que la politique étrangère de la France, en signant des contrats mirobolants avec le Moyen-Orient et en étant aveugle sur les aides, et je mettrai entre guillemets les aides financières de la France, du Moyen-Orient, pardon, de certains pays du Golfe, pour ne pas les nommer, Qatar, Arabie Saoudite, les fameux fonds de développement des banlieues, etc., et contribuer de manière pratiquement indirecte un peu à une marginalisation d'une jeunesse et le fait d'avoir des pensées relativement extrémistes.
Alors ça, oui, vous avez raison. Et là, je suis plus dans mon rôle en tant que géopolitologue pour vous répondre. Et là, je pense que le discours des Mureaux est comme d'autres discours, le laisser entendre, peut-être pas suffisamment. Et moi-même, je m'étonne qu'on ne focalise pas davantage sur le poids de l'islam consulaire et sur la lutte qui devrait être une lutte partagée par tout le monde, à savoir de lutter contre les ingérences extérieures. Vous avez raison de rappeler qu'il y a effectivement un certain nombre de pays qui pratiquent à travers la diplomatie spirituelle ou le soft power religieux une influence qui n'est pas directement ciblée contre les institutions, mais bien avec la stratégie de s'inscrire dans les sociétés où ils ont pour ambition d'agir. Vous avez raison de rappeler qu'il y a un hiatus, un paradoxe. La France est, vous avez raison aussi de le rappeler, le deuxième vendeur d'armes dans le monde, évidemment avec une grande partie de ses armements en direction de pays qui, par ailleurs, sont régulièrement pointés du doigt pour justement cet activisme ou ce prosélytisme politico-religieux qui, évidemment, est à combattre ou en tout cas qui peut apparaître comme un élément déstabilisateur en France comme dans d'autres pays. C'est une des raisons pour laquelle la déstabilisation au Sahel est aussi devenue une réalité entre les années 90 et le début des années 2000. Effectivement, j'aurais souhaité, et j'espère qu'il y ait un discours ou un consensus pour lutter ou critiquer le plus posément possible et sans faire aucun anathème, mais évidemment en ne marginalisant personne. Il est un peu spécieux de cibler que la Turquie, alors que les Émirats arabes unis, comme vous l'avez dit, le Qatar, comme vous l'avez dit, ou l'Arabie saoudite, évidemment, comme vous l'avez dit, à travers le wahhabisme et les cours wahhabites, a pu évidemment influencer un certain nombre d'imams qui, parfois, ont des prêches qui ne sont anti-républicains, ou en tout cas, qui ne vont pas dans un apaisement ou dans le cadre d'un islam de France qui se veut respectueux des institutions républicaines. Effectivement, la réflexion est en train d'être menée sur un certain nombre d'imams radicaux qui sont, comme vous l'avez évidemment analysé, font partie des personnes que le ministre de l'Intérieur a décidé d'expulser du territoire national.
Est-ce que vous pensez que cette politique étrangère peut changer ?
Ah, elle peut changer si le président change, évidemment. Ça, c'est une réponse logique. Maintenant, la politique étrangère de notre pays ne dépend pas seulement de la présidence. Il dépend aussi de l'appartenance de notre nation à un certain nombre d'organisations qui, parfois, font des opérations militaires dans lesquelles nous avons, hélas, pas assez de poids. Et le fait que nous ayons refusé de participer à l'opération américaine en 2003-2004 nous ramène évidemment à l'idée que nous devons construire notre propre indépendance nationale, avoir notre propre paradigme stratégique et parfois évidemment avoir une autonomie de réflexion stratégique qui, dans les années qui ont précédé, a fait un peu défaut. En résumé, nous sommes un peu loin de la politique d'indépendance nationale ou les grandes heures de la politique arabe de la France sous la présidence de Jacques Chirac, pour ne citer que ces incarnes les plus récents.
Alors, dernière deux petites réflexions, questions, c'est comme vous voulez. Par rapport à la communauté musulmane qui vit actuellement en France, les Français musulmans qui représentent pratiquement 8 millions du peuple français, ils ont certainement, il y a plusieurs craintes aujourd'hui par rapport à leur situation, surtout en écoutant un discours tel que le discours que je vais citer là tout de suite. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, s'est exprimée ce matin même sur RMC et BFM en disant qu'encore une fois, il faut savoir contre qui nous nous battons, il ne faut pas avoir de complexe, il ne faut pas se donner d'excuses, il ne faut pas avoir peur d'être traité d'islamophobe. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?
d'après vous. Évidemment, je récuse ce terme. C'est évidemment un discours de haine, un discours de fracture, un discours qui n'est absolument pas républicain, ou en tout cas qui n'est absolument pas dans le sens d'un apaisement d'une situation qui, comme vous le présentez, ne peut pas être justifiée. Je m'inscris en faux dans ce discours qui viserait à monter des communautés les unes contre les autres, ou faire des citoyens ne pratiquant pas ou pratiquant une religion ou étant d'une origine ethnique spécifique des citoyens de seconde zone. Évidemment que ce n'est pas ça le modèle d'intégration républicaine, avec toute l'honnêteté de dire qu'il est évidemment un peu fragile, ou en tout cas un peu fragilisé par un certain nombre de situations qui sont évidemment au niveau économique ou en termes d'intégration un peu en panne. On appelle l'assesseur social. Mais je ne peux évidemment pas justifier ou réduire le discours français à un discours mené par quelqu'un qui cherche la division pour essayer de construire électoralement ou politiquement sa propre légitimité politique.
Alors, je termine par la remarque ou le discours aussi du guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, qui a comparé mercredi, hier, la négation de la Shoah aux caricatures jugées insultantes du prophète de l'islam Mohammed. Il a prononcé, enfin, ses propos étaient comme ça, mais exactement, je vais littéralement lire ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'un crime, ou est-ce un crime de douter de la Shoah, tandis que l'offense au prophète est un acte permis. Qu'en pensez-vous ?
J'ai pas entendu votre question. Alors il a beaucoup de bruit.
Il a comparé.
Ensuite, vous répétez rapidement la question.
Voilà, le guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, il a comparé la négation de la Shoah à l'offense du prophète Mohammed. Donc pourquoi est-ce un crime de douter de la Shoah, tandis que l'offense au prophète est un acte permis par la loi ?
Bah, écoutez, alors là, encore une fois, c'est un discours qui mériterait évidemment pas le peu de temps que j'ai à vous consacrer. Malheureusement, je pense que le discours du président et du guide suprême iranien est largement mu et d'une certaine façon guidé par un agenda politique. Je rappelle qu'il y a au sein du gouvernement, au sein des pouvoirs, des cinq pouvoirs iraniens, il n'y a pas forcément une concomitance aussi évidente que ce qu'il n'y paraît. Le président Rouhani est largement plus libéral que ne l'est le guide suprême. Je rappelle également que l'Iran s'inscrit dans un processus électoral qui l'amènera à remplacer le président Rouhani, ou en tout cas à remettre son mandat en jeu au printemps 2021. Je rappelle également que dans quelques jours, une élection américaine montre à quel point la tension entre les deux pays fait que les conservateurs des deux bords ont besoin de se renforcer vis-à-vis de leur opinion publique. Je rappelle également que nous sommes dans une situation un peu particulière où le président Donald Trump et d'une certaine façon celui qui pourrait le remplacer, Joe Biden, ont eu à peu près la même vision d'un Proche et Moyen-Orient qui exclurait les Palestiniens du droit légitime qui visait à occuper un territoire qui, pour la plupart, est occupé illégalement par les colons israéliens. Et je rappelle également, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le guide suprême a fait cette comparaison, qu'un certain nombre de pays musulmans ont décidé de ne pas suivre la position rigoriste telle que l'a évité le guide suprême en faisant un rapprochement historique, spectaculaire et historique vis-à-vis d'Israël, nommément Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et encore plus récemment le Soudan.
Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, merci pour votre intervention. Je vous remercie de votre intervention.